L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor, creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor, avec ses apostrophes H à la fin, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. Mais l'EM, c'est toujours en direct à midi et en rediffusion à 18h. L'association Bretagne Vivante vient nous voir dans l'EM une fois par mois. Vous le savez, ça nous ouvre un vaste champ d'exploration des animaux, parfois des végétaux, plus généralement des milieux. Aujourd'hui, c'est très végétal, mais pas seulement. C'est tout un écosystème autour des fleurs, mais aussi d'animaux domestiques qui pâturent. Nous sommes dans la prairie fleurie en compagnie de Luc Guillard, animateur de Bretagne Vivante, qui est aussi botaniste. Bonjour Luc.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que c'est que ce concours des prairies fleuries ? Ça, c'est assez vieux apparemment.
Le concours des prairies fleuries en fait existe depuis une dizaine d'années, 10 ans, puisque la dernière édition s'est rendu compte qu'on se retrouvait avec le jury pour la 10e année consécutive. C'est un concours en fait, concours général agricole. Donc c'est vraiment c'est institutionnel en fait. Ça se passe au niveau national. C'est géré ou régi par un règlement plutôt strict.
C'est le ministère quoi.
C'est le ministère de l'Agriculture, voilà. Et le lauréat. Ira au salon de l'agriculture pour la finale. C'est là qu'a lieu l'apothéose en fait du concours.
Ah oui, sauf qu'il ne pourra pas amener sa prairie au salon, j'imagine.
Non, voilà, c'est le dossier de présentation de sa prairie de la personne sélectionnée en région qui se rendra au salon pour la finale, quoi.
Et dans le Finistère, ça fait longtemps qu'on organise ce concours de prairie fleurie?
Oui, ça va faire, comme je disais tout à l'heure, une dizaine d'années, 10 ans.
Donc c'est pas. Mais est-ce qu'on est là depuis le début du concours en France?
Oui, depuis le début. Okay. Les concours agricoles, je me suis un peu renseigné, ça existe depuis 150 ans.
Bah oui, c'est pour ça.
C'est quelque chose qui va qualifier l'excellence en production agricole et notamment en nourriture, sur des fromages, des vins, enfin des produits de ce type. Et il y a 10 ans, en fait, ils ont aussi. Il y a un groupe là qui a lancé l'idée de valoriser aussi à travers ce concours des pratiques agricoles sur des milieux plutôt naturels dans l'espace agricole.
Ah oui, donc il y a les prairies fleuries, mais il y en a d'autres.
Il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, a été intégré aussi tout ce qui va concerner l'agroforesterie. Ah. Et notamment, chez nous en Bretagne, la gestion des haies en particulier, ou l'intégration des haies dans l'exploitation agricole.
Concours de bocage en gros quoi.
Enfin, c'est le concours du bocage. Ouais. Ça porte des noms, en fait. On dit prairie fleurie, mais en vrai, c'est prairie et parcours. Donc, c'est un peu moins poétique. Donc, nous, on continue à parler de prairie fleurie, en fait.
Ah oui, parcours aussi. Comment ça, parcours
Parce que ça va concerner, comme c'est au niveau national, ça va aussi concerner des espaces où on va plutôt pâturer en faisant parcourir des bêtes. Typiquement, les estives, les zones de montagne, des secteurs comme ça, les zones de landes. C'est peu pratiqué en Bretagne. Mais c'est une possibilité d'utiliser la végétation avec des troupeaux. Quoi.
Mmh. Et donc, dans le Finistère, c'est qui est-ce qui organise ça ? Donc, c'est le parc qui chapeaute, le parc d'Armorique, c'est ça ?
Oui, voilà. En fait, traditionnellement ou dès l'origine, la proposition a été beaucoup relayée par les parcs naturels régionaux et le parc naturel régional d'Armorique séduit par la proposition et donc a porté le concours en local. Après, ça a essaimé, hein, il y a eu d'autres porteurs et les syndicats de bassin aussi, certaines communautés communes par exemple. Toutes ces organisations qui sont en lien avec des agriculteurs sur leur territoire, qui mènent déjà d'autres programmes, on fait cette proposition aux agriculteurs de leur territoire et certains engagent des prairies dans le concours. Quoi.
Donc il y a de plus en plus de prairies qui participent dans le Finistère, c'est ça
Oui, il y a. Alors de plus en plus, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais il y a toujours des prairies qui sont engagées. Quoi. On trouve toujours sur une dizaine d'années, avec à peu près 8 ou 10 postulants par année, vous voyez, il y en a 80 quand même qui ont été visités.
Ah oui, d'accord. Et ça sort du parc d'Armorique, alors c'est tout le Finistère, j'imagine.
Oui, voilà, en fait, on n'est pas que sur le territoire du parc. Et puis, ces organisations dont je parlais tout à l'heure s'associent, en fait. Donc, on va avoir maintenant On est un peu sur le syndic, ben, si je parle en local, hein, sur ce que je connais, on va être plutôt, on va la dernière édition là, il y a un mois, eh ben on est allé dans le Léon, puis on est allé dans les Monts d'Arrée, puis on est allé sur le territoire du parc, sur Plougastel aussi, voilà.
Donc il y a vraiment des prairies fleuries partout dans le Finistère. Enfin, des prairies fleuries, oui. Ou des
Oui, c'est une belle appellation. Moi, j'aime bien la garder, les prairies fleuries. Qu'on va distinguer quand même de la jachère fleurie qu'on va semer. Une prairie fleurie, c'est une... On va aussi les nommer prairies naturelles. Donc, c'est des prairies qu'on n'a pas semées, justement, et qui existent depuis très, très longtemps. Alors, peut-être qu'elles sont issues d'un défrichement il y a des décennies et des décennies. Et puis, qui ont perduré à l'état de prairie dans tout un tas d'exploitations.
Alors souvent, quel genre d'exploitation,
Alors le plus souvent, ce sont des élevages, donc des exploitations laitières bovin lait, bovin viande, enfin bétail qui produit du lait, animaux qui produisent de la viande. Et c'est vrai que de mémoire, on va surtout rencontrer, nous, des élevages laitiers ou des élevages bovins-viande, des allaitants, des choses comme ça.
Oui, parce que j'imagine que quand dans les régions céréalières, il n'y a pas beaucoup de prairies fleuries, en fait.
C'est vraiment très, très lié à l'élevage. Il y a vraiment, d'ailleurs, c'est un enjeu très important. En fait, la prairie est liée à l'élevage, son maintien est lié à l'élevage. Donc, garder l'élevage, c'est aussi garder des prairies. Il y a des enjeux, des enjeux de conservation de ces espaces-là, parce que
on va dire quel est l'intérêt des prairies,
bien sûr.
Oui, et juste avant de revenir sur l'intérêt des prairies, c'est plutôt des petits espaces. Enfin, quelle est la surface d'une prairie comme ça, un peu sauvage, mais pâturée?
Celle qu'on regarde en fait dans le concours pour la dernière édition et même les précédentes, ça avoisine l'hectare. C'est pas des parcelles très très grandes en général, parce que c'est un peu des restes en fait aussi.
Et voilà, en fait c'est aussi ce qu'on n'a pas pu cultiver, j'imagine. Si on a mis de l'élevage, c'est parce que c'était difficile de faire du blé, justement.
Un peu ça, C'est que quelque part dans l'évolution de l'agriculture, dans son histoire, donc j'ai bien dit tout à l'heure, c'est des prairies qu'on n'a pas semées, donc on va pas nous les regarder, ce qu'on va appeler les prairies temporaires en fait, les prairies qui sont semés, qui vont durer quelques années, puis une céréale va revenir derrière. Donc nous, ce qu'on regarde exclusivement dans le concours, ce sont ces formations anciennes, en fait, alors qui vont peut-être même s'appeler maintenant des prairies permanentes aussi. Il y a un peu un mélange des genres là-dessus. Et où on va avoir une diversité de flore, en fait, qui va s'exprimer. Et c'est vrai que c'est un peu des reliques, quelquefois, qui sont conservés de façon très, très précautionneuse par les gens qu'on rencontre, par les paysans qu'on rencontre, les agriculteurs. Mais c'est vrai qu'on va... c'est un peu des reliques, en fait, mine de rien.
D'accord, donc des plutôt petits terrains. Ouais. Et sinon, à quoi est-ce que ça ressemble, alors, est-ce qu'on parle des critères du concours ou est-ce qu'on parle de l'idéal? Je ne sais pas, c'est peut-être la même chose.
Il y a plusieurs personnes dans le jury qui regardent ces prairies. Nous, à Bretagne Vivante, on emmène un regard plutôt centré sur la biodiversité et même plutôt les petites bêtes qui vont exister dans la prairie, sa capacité à voir les invertébrés présents, les insectes, pour faire court, ces petites bêtes-là.
Arthropodes, tout ça, quoi. Arthropodes, les vers.
Vers, oui.
Enfin, vous n'allez peut-être pas dans le sol, vous n'allez pas farfouiller.
On n'a pas le temps, en fait. Ça va assez vite, donc on n'a pas trop le temps. Mais dans le jury, il y a un jury qui va aller voir les prairies qui ont été sélectionnées par, justement, en l'occurrence, là, le parc, qui va aller voir si la prairie proposée par le paysan, par l'agriculteur, est conforme en fait déjà aux critères du concours. Si c'est vraiment, par exemple, elle se rattache à ces prairies permanentes ou prairies naturelles. Et puis, le jury va regarder deux choses. En fait, on va regarder deux choses majeures. La valeur agronomique de la prairie et sa valeur écologique, si on veut. Donc, on est dans l'agroécologie.
Tout à fait.
Et tout ça se fait sous le regard, l'accompagnement, l'éclairage de la personne qui l'utilise, qu'on considère comme étant l'expert dans son domaine, sur son exploitation.
Donc, il faut qu'elle soit utilisée.
Faut
qu'elle soit pâturée.
Le concours valorise et veut valoriser ce type de prairie et leur niveau de prise en compte dans l'exploitation et leur niveau de valorisation par l'exploitant et le niveau de conservation de sa valeur agronomique et biologique.
Donc valeur agronomique, ça veut dire le nombre de jours où il enverra ses animaux dedans, par exemple.
Par exemple, l'usage qu'il en fait pour en tirer le meilleur parti sans l'épuiser, par exemple. Mmh. Et on voit des gens qui savent très très bien utiliser ces espaces-là, qui les revendiquent en fait, qui vont dire certains vont pas utiliser ces espaces, eux ils comptent dessus pour elles sont importantes dans leur système d'exploitation en fait quoi.
Oui.
Sans cette herbe-là, mon système il fonctionnerait moins bien par
c'est
exemple.
Ça. Ouais, on va pas regarder jusqu'à regarder la valeur nutritionnelle des plantes qu'il y a dedans.
Non, voilà, c'est même quelque chose qui manque en fait par rapport à ces prairies, c'est qu'on n'a pas, il n'existe pas une grande connaissance de leur valeur, nutritive, plante par plante. Mmh. On a accumulé en agronomie, beaucoup de connaissances ont été accumulées sur certaines plantes dans leur valeur en termes, alors on va dire les UFL, leur valeur en énergie, leur valeur en
vitamines, acides aminés,
tous ces trucs-là, tous ces facteurs-là. Mais on a un peu postulé dès le départ que ces prairies naturelles, elles n'avaient pas de valeur. Alors, quand je dis dès le départ, il faut se reprojeter dans les années 50. Et donc, on les a laissées de côté, quoi. Il y a un regain d'intérêt par rapport à ces formations végétales. On se rend compte qu'elles produisent toutes seules, sans forcément qu'on emmène grand-chose dessus.
Donc un critère peut-être qu'il faut évidemment qu'il n'y ait pas d'intrants, j'imagine, sur la prairie.
Et de toute façon, s'il y a des intrants, ça va se voir avec certains indicateurs qu'on regarde. La diversité végétale, par exemple, si on amène des intrants et notamment trop d'azote, ça va très bien se voir, ça va diminuer la diversité végétale. Mmh. Et on va avoir certaines plantes qui vont s'exprimer, qui valorisent très bien l'azote, par exemple.
Trop de trèfle ou des choses comme ça.
Pas tant du trèfle, mais des plantes plutôt... des rumex. Les rumex, par exemple, on va bien les voir dans ces circonstances-là. Quoi. Non, le trèfle, il va être présent naturellement. Et on va même regarder, en fait, dans l'approche des botanistes dans ce jury, ils doivent retrouver plusieurs plantes indicatrices le long d'un transect en diagonale de la prairie.
Alors, par exemple, c'est quoi les plantes écologiquement intéressantes?
Ça va être plusieurs familles de plantes qu'on va ranger dans justement le groupe des trèfles, donc les fameuses légumineuses. Mmh. On va aussi regrouper d'autres plantes à fleurs comme les marguerites. Donc là, ça va être les astéracées. Et puis, regarder des plantes qui sont plutôt du groupe des herbes, des poacées, les graminées, mais des herbes différentes. Mmh. Bref, on va regarder en gros plusieurs familles botaniques. Ce qui est assez bluffant d'ailleurs, c'est que la grille proposée au niveau national, elle fonctionne bien en local aussi.
Ah oui, c'est ce que j'avais dit, il y a quand même des espèces différentes d'une région.
Il y a des grandes disparités, mais comme on regarde les grandes familles,
C'est vrai que les astéracées, il y en a tellement.
On s'y retrouve, quoi.
Ouais, ouais. Ah oui, d'accord.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un qui va regarder aussi la valeur apicole. Donc de la parcelle et de sa périphérie, les haies.
D'accord.
En fait, on regarde un peu un système quand même. Mm-hmm. Et puis, il y a les agronomes qui vont regarder la valeur fourragère. Mm. En gros, est-ce que le mode de valorisation de la prairie conserve sa valeur fourragère, ne va pas conduire à l'épuisement? Enfin, en gros, est-ce qu'elle est bien utilisée par rapport à ce qu'elle apporte? Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'agriculteur qui raconte... qui explique comment il utilise cet espace-là aussi. Mmh.
Et sur les critères écologiques, donc, on compte que les pollinisateurs ou d'autres
Non, on va regarder aussi, quand on regarde les invertébrés, on va tout regarder. On va regarder par exemple, là on était un peu tôt cette année, mais on va voir par exemple s'il y a des sauterelles, des criquets, des orthoptères. On va regarder les papillons, on va voir s'il y a de la libellule qui se promène. En fait, dans l'écosystème prairie, la prairie... je dirais que basiquement, elle est définie par de l'herbe. On va surtout voir de l'herbe. Mmh. Mais cet écosystème, il héberge toute une faune, une petite microfaune, une petite faune invertébrée. Et on va regarder, en gros, la diversité aussi, essayer d'aborder la diversité des familles de ces insectes qui existent dans la prairie. Quoi.
Et donc, on y passe combien de temps et en quelle saison, en gros, pour explorer la prairie, pour faire le jury?
On le fait à l'optimum de sa végétation, de croissance qui est arrivée dans ces temps-ci. Mmh. Mais comme on a eu un temps moyen en avant-saison, c'était pas mal au niveau botanique. Mmh. Il fallait qu'on passe avant que l'agriculteur ne passe un coup de barre de coupe ou ne mette ses bêtes. Par contre, c'était moins bien au niveau petites bêtes. Moi, j'ai trouvé qu'elles avaient un peu de retard, en fait.
Oui, c'est ça. Il fait tellement assez froid, on va dire. Ouais. Donc,
Mais les grands critères sont de toute façon déterminants dans le concours. C'est la valorisation agricole et la qualité un peu de l'assemblage de végétation, la qualité botanique, quoi.
Donc ces prairies peuvent être fauchées, j'ai entendu barre de coupe, donc ça veut dire qu'on a le droit de les faucher quand même.
Ah ouais, ouais. Ce qui est super important, parce qu'il faut à tout prix comprendre, c'est qu'elles sont intéressantes ces prairies parce qu'elles sont utilisées. Bien utilisées, mais utilisées. Mmh. Et quelque part, si y a une transformation ou un abandon de l'usage, on perd un milieu super intéressant à plein de points de vue. Non. En séquestration du carbone, par exemple.
Oui, on va venir aux intérêts. Ben juste, ouais. J'avais une dernière question. Pardon. Une lande fauchée, enfin pâturée, n'entre pas dans le concours. C'est vraiment la prairie, c'est autre chose, quoi.
En fait, sous l'influence du parc, on a quand même rentré de la lande dans le concours. Parce que quand on va dans les monts d'Arrée...
On a fait des sujets là-dessus.
Et puis on rencontre des exploitations, des exploitants. Eux, ils ont intégré la lande des montagnes à leur exploitation, qui est un peu plus bas, quoi. Mmh. Et on a vu, je me rappelle, on avait vu à Plounéour, Ménez, un agriculteur qui, lui, nous avait clairement expliqué que la montagne, la montagne s'en fera sourire quelques-uns, pas ici, hein, mais ailleurs, et cette montagne de 300 et quelques mètres de haut, là, faisait partie de son exploitation et que la litière qu'il retirait de la lande allait être valorisée en bas, il en avait besoin, quoi, en gros. Quoi. Mmh. Et nous, ce qu'on voyait d'un point de vue biologique, c'est que cette action écologique, cette action d'intervention sur la lande, il la fauchait, hein, tout simplement, il faisait la litière, valorisait la lande, entretenait le milieu, lui gardait un intérêt en termes de biodiversité très très important. Et l'autre truc qu'il nous a dit, je suis long, hein, mais l'autre truc qu'il nous a dit...
Non, c'est bien, mais c'est parce que ça permettait à des plantes de pousser, enfin le fait de faucher, ça permettait à d'autres plantes de pousser, j'imagine.
On va rajeunir le milieu en permanence, c'est vachement intéressant. Ouais. Et l'autre truc intéressant que nous a dit ce monsieur, c'est que lui, il fauche de la litière, il met de la litière sous ses bêtes, ses vaches, mais quand il les regarde, il dit, mais elle commence par fouiller dans la litière pour ramasser un tas de trucs, un tas de plantes bonnes à manger.
Oui, oui.
Parce qu'en fait, ça varie un peu leur assiette, leur menu, si on veut. Et il a constaté ça.
Instinctivement, elles savent quelles sont les...
Ah oui, j'imagine qu'elles se retrouvent sur une litière avec un parfum assez impressionnant. Elles savent trier. Hein.
Ah ouais.
Et ça, on a eu ce témoignage à plusieurs reprises. Il y a d'autres exploitants, le foin, les rounes, en fait, qu'ils vont faire dans ces parcelles. Ils vont les stocker, certains, pas tous, mais certains, ailleurs, un tas à part dans le hangar, et ils vont s'en servir pour amener une ration un peu différente, en fait. Mmh. Et le constat qu'ils font, c'est qu'à chaque fois, les bêtes, elles se jettent dessus littéralement, quoi.
Bon, on commence à voir vraiment se dessiner là au fil de cet échange tous les intérêts de ces prairies, donc intérêts agronomiques, on a déjà pas mal évoqué, et il y a tous les autres intérêts, c'est ça. Donc il faudrait qu'on revienne dessus. On a le temps.
Oui, bien sûr. En fait, les intérêts sont multiples, en fait. Hein. C'est vraiment un système, la prairie. Et en fait, on identifie ces intérêts de façon un peu théorique. Les quantifier, il y aura un peu bagarre de chiffres un peu à chaque fois. Mais donc en termes de biodiversité, de diversité floristique, c'est juste énorme l'intérêt. Alors, deux chiffres, on peut dire. Si je prends une prairie, temporaire, artificielle, qui va être même multi-espèce, on va faire 5 ou 6 espèces en fait. Mmh. On a 5 ou 6 espèces. Mmh. Si on prend une prairie naturelle, diversifiée, mais on va monter à 50 espèces différentes.
Végétales uniquement
ou herbes.
D'accord.
Un non spécialiste va dire c'est de l'herbe.
Ah ouais.
Ou des fleurs, l'herbe avec des fleurs, mais rien que dans la catégorie herbe, donc graminée, on va peut-être avoir 10 trucs différents, quoi, 10 D'accord. espèces différentes. On va avoir des carex, on va avoir des différents joncs, pas uniquement le jonc qui est célèbre en agriculture et qui est très décrié, en fait, le jonc commun. Mmh. des fleurs, bah, plein de fleurs différentes, en fait, quoi. Donc, tout de suite, quand je dis ça, on peut se rendre compte qu'on va aussi avoir, si on, on fait le truc classique hein, de la chaîne alimentaire, bah, on va avoir du monde à venir exploiter cette ressource végétale, en fait.
Hein. La faune qui va avec,
la
quoi.
La petite faune, tu as évoqué les pollinisateurs tout à l'heure. Bah, c'est sûr, pour les pollinisateurs, mais c'est juste...
C'est le festin.
C'est le festin, c'est juste excellent. Ouais. Puis les prédateurs de tout ce joli monde vont être présents aussi.
Des oiseaux, enfin, notamment, mais pas seulement.
Pas seulement, mais un truc qui nous a frappé cette année, un peu à chaque fois, la prairie, c'est le terrain de chasse des hirondelles. Mm-hmm. Dès qu'on a une prairie de ce type, généralement, la plupart des paysans, même s'ils ne sont pas en bio, nous disent bah, qu'ils n'y font pas grand-chose, qu'ils n'y amènent pas grand-chose. Mm. Et il n'y a pas de traitement, il n'y a jamais de traitement sur les prairies de toute façon.
C'est ça.
Ouais. Ils ne le font pas, ça ne sert à rien.
Ah non.
Et bah les hirondelles ne s'y trompent pas, hein. Elles sont là, quoi. Et donc ça, c'est un constat aussi.
Est-ce qu'on a cherché à savoir s'il y avait, par exemple, plus de colonies de chauves-souris pas loin enfin,
On pourrait le faire, en fait, parce qu'en fait, c'est une bonne idée.
Ok, je lance l'idée.
La prairie... Avec, en fait, c'est un élément de, on va dire, l'agro-système. Mmh. Et en fait, bon, elle est très utile pour l'exploitant qui la conserve. Mais en fait, elle va rendre tous ses services, justement, terrain de chasse pour les chauves-souris, terrain de chasse pour certains oiseaux insectivores, stock un peu de pollinisateurs. À la limite, un éleveur qui est en toute herbe, les pollinisateurs, ce n'est pas trop son problème, puisqu'il n'en a pas franchement besoin.
Non.
C'est le vent qui pollinise l'herbe. Mais par contre, ce qu'on dit souvent, c'est que l'arboriculteur, son voisin qui fait plutôt des arbres ou des petits fruits, bah lui, les pollinisateurs qui l'hébergent vont aller bosser ailleurs, quoi. En fait, ça montre aussi cette pratique du concours, bah, que les éléments sont vraiment imbriqués, que le système d'exploitation de quelqu'un complète le système d'exploitation d'un autre.
Mais d'ailleurs, il y a des gens qui font de l'élevage et de l'arboriculture. Enfin,
alors, ceux qui ont plusieurs ateliers, bah oui, quelque part, ils ont intérêt à diversifier leur espace. Et il y a un lien très fort entre la prairie et les haies qui sont autour aussi. Ça marche ensemble, en fait, tout ça.
Et sinon, autre intérêt qu'on a évoqué rapidement, c'était la séquestration du carbone. Alors là, voilà, on dit toujours l'élevage, ça, c'est émetteur de carbone, mais en fait, c'est pas vraiment ça.
L'élevage, alors il émet plutôt du méthane, en fait, notamment les bovins, les ruminants, tu vois. Mmh. Du carbone aussi, hein, par les cultures notamment. Mmh. Et en fait, les prairies, en fait, un élevage tout herbe va quasiment s'équilibrer. Puisque les prairies vont conserver, en fait, stocker, comme on dit, du carbone. Les prairies de longue vie aussi, c'est une tonne à 0,5 tonnes de carbone par an, et les chiffres, c'est de 60, 70, 80 tonnes de carbone stockées dans le sol de la prairie, quoi.
Et en gros, ça fonctionne comment ? Enfin, comment elles séquestrent le carbone en...
Avec tous les éléments morts des plantes. Dans le cortège de plantes, il y a des plantes annuelles, par exemple. Il y a d'abord ce qui est fauché va être exporté. Les animaux vont bouser, sur les sols. Là, il y a du carbone qui va de nouveau être stocké dans le sol avec les décomposeurs. Ça revient un peu comme ça. Puis la majorité, c'est des éléments morts des plantes qui restent dans le sol, en fait. Mmh. Des bouts de racines, soit tout le système racinaire, des bouts de feuilles mortes, des choses comme ça.
Donc c'est du carbone qui va s'enfoncer dans le sol.
Qui va être stocké dans le sol, dans cet horizon très noir, là, voilà. Mmh. Une culture va réémettre tout ça très très vite, quoi. Elle remet tout ça dans le circuit, en fait. C'est important, important, important.
D'autres intérêts, j'imagine, en termes de régulation des ruissellements, peut-être.
Exactement, c'est un couvre-sol permanent. Donc les prairies de bas-fond vont stocker de l'eau, c'est des éponges, si on fait court.
Ça existe, prairies humides, prairies sèches, comme landes humides et landes sèches.
Oui, tout à fait.
Et ça rentre dans le concours, les deux.
Ça rentre dans le concours. On a même beaucoup, souvent, des prairies humides qui sont celles
comme
qui...
c'est étonnant.
mais il y avait un focus de fait là-dessus dans les dernières décennies, on va dire. Donc il y a pas mal de prairies humides. Et les prairies sèches, les prairies de pente, les prairies sèches de plateau, celles-là, elles sont un peu plus rares parce que justement, elles ont été quelquefois converties en culture. Il y a un gros enjeu là-dessus. Hein. Alors, le conservatoire botanique va démarrer un travail cette année sur les prairies pour qu'on connaisse un peu mieux ces cortèges de prairies. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je dis prairies.
Oui, on dit prairies. Il y en a plein de sortes. Ouais.
Les prairies, ça cache plein de choses en termes d'assemblage de plantes. Et la Chambre d'agriculture démarre aussi un programme start. Valais, qui va aussi regarder un peu plus près l'élevage et ce système, et les prairies vont faire partie aussi de ça. Donc je dirais que maintenant, on commence à prendre conscience de l'intérêt de ces espaces, en fait. Parce qu'on en a, perdu 73%.
Ah ouais. Donc stockage du carbone, limitation des ruissellements et de l'érosion des sols, etc. Et puis
voilà,
intérêt agronomique.
Ouais, voilà. Et puis conservation de l'eau, il y a un côté régulation du climat aussi, ça va participer à ça. En fait, la prairie, elle est... et puis elle demande moins...
De boulot,
entre guillemets. Ouais. Alors peut-être que les agriculteurs qui écoutent vont dire, bon, bah, oui. Il n'y a qu'à venir, lui.
Ouais, quand même, il y en a. Oui, on ne fait pas rien.
On ne fait pas rien, bien voilà. Sûr. Ouais. Mais ça va moins demander d'énergie et d'intrants, peut-être. Mmh. Voilà, c'est surtout
ça.
Bon, après,
moins de pollution.
C'est à regarder d'un peu plus près, forcément. Mais on parle bien des prairies naturelles, en fait, hein, ou des prairies plutôt permanentes. Voilà, c'est plutôt celle-là qui intéresse.
Eh bien, longue vie au concours de Prairies Fleuries. Merci beaucoup. Il faut réécouter toutes les émissions qu'on a faites avec Bretagne Vivante cette saison. Et il y en aura certainement la saison prochaine. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec Marie Cultive, avec les élèves de l'école Julie Daubier de Saint-Ségal. Il y aura aussi un petit fleuve à explorer et une exposition arborée à visiter.